de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux,
les infos de l'Indonésie,
l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. Le président Joko Widodo participera à la semaine prochaine au sommet des routes de la soie à Pékin. Le président Joko Widodo assistera au sommet ASEAN et Conseil du Golfe à Riyad. Répondre aux besoins en électricité passe à l'énergie verte, a déclaré président Joko Widodo. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. Le président indonésien Joko Widodo devrait participer au troisième forum de la ceinture et de la route que se tiendra les 17 et 18 octobre 2023 à Pékin, en République populaire de Chine. La tenue de ce forum marquera le 10e anniversaire de l'initiative La ceinture et la route. Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, M. Lalu Muhammad Iqbal, dans une déclaration prononcée à Jakarta vendredi 13 octobre, a déclaré que le forum de l'initiative de la ceinture et la route a une signification importante pour l'Indonésie en soutenant le programme national de développement des infrastructures du pays. Il a déclaré que l'Indonésie travaillerait en synergie avec tous les pays présents à la réunion de l'initiative de la ceinture et de la route pour soutenir les efforts nationaux de développement des infrastructures.
Sampai saat ini, presiden masih dijadwalkan untuk hadir di dalam acara tersebut.
Belum ada. Jusqu'à présent, la présence du président à l'événement est toujours prévue. Il n'y a pas encore notification concernant d'autres projets, ce qui signifie que jusqu'à présent, le président a confirmé sa participation à l'événement. Pour l'Indonésie, cet événement est lié au développement des infrastructures nationales. Nous voulons construire la meilleure infrastructure au niveau national et nous sommes conscients que nous ne pouvons y parvenir sans une synergie avec les parties nationales et internationales. Et nous considérons cela comme un forum où nous pouvons créer des synergies afin de construire des programmes nationaux et de construire des infrastructures dans le pays. L'initiative La ceinture et la route est un plan mondial d'infrastructure des réseaux énergétiques lancés par la Chine il y a 10 ans pour relier l'Asie à l'Afrique et à l'Europe via des routes terrestres et maritimes. La Chine a signé des documents de coopération dans le cadre de la ceinture et la route avec plus de 150 pays et plus de 30 organisations internationales. Le président Joko Widodo assistera à la troisième réunion du forum de la ceinture et de la route qui se tiendra du 17 au 18 octobre 2023 à Pékin, la République populaire de Chine. La tenue de ce forum marquera le 10e anniversaire de l'initiative La ceinture et la route. Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, M. Lalu Muhammad Iqbal, dans une déclaration prononcée à Jakarta vendredi, a déclaré que le forum de l'initiative La ceinture et la route a une signification importante pour l'Indonésie afin de soutenir le programme national de développement des infrastructures du pays. Il a déclaré que l'Indonésie travaillerait en synergie avec tous les pays présents à la réunion pour soutenir les efforts nationaux de développement des infrastructures.
Hingga saat ini, Presiden...
Concernant le sommet ASEAN et le Conseil du Golfe à Riyad, le président a confirmé qu'il devrait actuellement assister au sommet et profitant également de l'occasion d'être à Riyad, le président devrait effectuer une visite bilatérale officielle. Et l'Arabie Saoudite a confirmé qu'elle recevrait la visite officielle du président à Riyad. Auparavant, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Indonésie, Faisal Abdullah Amodi, avait déclaré que le sommet devait renforcer les relations et la coopération qui existait entre les régions. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le président Joko Widodo donne la priorité à la satisfaction des besoins nationaux en électricité via une politique de transition des énergies fossiles vers les énergies vertes. La déclaration du président répond également à la décision du Japon de cesser de financer la construction de la centrale électrique à vapeur Indramayu. Le président Joko Widodo, en mars d'une visite de travail à Indramayu, Java West, vendredi, a déclaré que l'énergie verte, qui est désormais une priorité en Indonésie, est l'une des centrales hydroélectriques et solaire à Cirata, Purwakarta, Java West. Rapporté de la page de la Direction générale des énergies nouvelles et renouvelables et de la conservation de l'énergie, le ministère de l'énergie et des ressources minérales, la centrale hydroélectrique PLTA Cirata devrait avoir une capacité de 1008 MW et la centrale solaire a une capacité de 1 MW en pointe. En particulier pour la centrale solaire flottant Cirata, il sera construit par la coopération entre l'Indonésie et les Émirats Arabes Unis pour répondre aux besoins en énergie électrique de Java Bali. La Ligue arabe a exhorté vendredi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à intervenir pour empêcher l'évacuation des habitants de Gaza. L'appel du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Abul Gheit, à Guterres fait suite à la demande de l'armée israélienne de déplacer toute la population de Gaza vers la partie sud de l'enclave palestinienne. Abul Gheit a déclaré que les actions d'Israël constituent des crimes de guerre faisant partie de sa campagne militaire brutale contre la bande de Gaza. Le secrétaire général de la Ligue arabe a souligné que les plans d'évacuation d'Israël causeraient d'énormes souffrances aux Palestiniens de Gaza. Il a également déclaré que la demande d'Israël de déplacer les Palestiniens de Gaza constitue une violation flagrante de la 4e Convention de Genève, donc l'une réglemente l'interdiction des transferts forcés de population. Le ministre des Travaux publics et du Logement public, M. Basuki Hadi Mulyono, a spécialement invité le président du Tadjikistan, Emomali Rahmon, a assisté à la réunion des chefs d'État au Forum mondial de l'eau à Bali en mai 2024. L'invitation du président du Tadjikistan a été transmise lors de la réunion du ministre Basuki avec la délégation du Tadjikistan dirigée par Sultan Rahim Soda, qui est également président du Fonds international pour le sauvetage de la mer d'Aral à Badung, Bali, vendredi en mars de la deuxième réunion de consultation des parties prenantes du deuxième forum mondial de l'eau. Basuki, cité dans la déclaration à Jakarta, a déclaré que le deuxième forum mondial de l'eau 2024 devrait produire des mesures concrètes dans la gestion de l'eau et peut devenir un lien pour tous les agendas internationaux concernant de l'eau. Sultan Rahim Soda, comme président du Fonds international pour la sauvegarde de la mer d'Aral, a déclaré que le deuxième forum mondial de l'eau devrait également se concentrer sur les actions réelles des participants venus prendre de nouveaux engagements en matière de gestion de l'eau. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Les premières nouvelles sont venues de Banjarmasin, dans le sud de Kalimantan. Le Conseil régional de gestion de Kalimantan du Sud pour les amateurs indonésiens d'orchidées maximise 8 parcs de conservation pour sauver l'habitat des plantes d'orchidées de la menace des incendies des forêts et de la terre dans 13 districts et villes de la région. Président du Conseil régional de gestion pour les amateurs d'orchidées indonésiens de Kalimantan du Sud, Arinda Dian Susanti à Banjarmasin, a déclaré mercredi que Kalimantan possède 3000 espèces d'orchidées, donc l'habitat sera déplacé des zones sujettes aux incendies de forêt et de terre vers des parcs de conservation. Elle a déclaré que les 8 parcs de conservation d'orchidées étaient répartis à Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, et Balangan. À ce jour, aucun orchidée n'a été affecté par les incendies de forêt ou de terre, mais on a ajouté que la fumée et la chaleur peuvent inhiber la croissance des espèces d'orchidées. Si les incendies de forêt et de terre s'accompagnent d'une saison chaude prolongée, l'habitat d'espèces rares d'orchidées pourrait être menacé d'extinction, d'autant plus que les espèces d'orchidées mettent des années à fleurir, certaines mettant même jusqu'à 20 ans. Arinda Dian Susanti a déclaré que même si l'incendie dans le Kalimantan du Sud est dominé par des tourbières, il menace toujours l'existence des orchidées parce que leurs habitats dans le Kalimantan du Sud n'est pas seulement dans les forêts, mais dans les tourbières ou les zones marécageuses. Les nouvelles suivantes sont venues de la région de Tulungagung, dans la province de Java orientale. Le service de bibliothèque et d'archives de la région de Tulungagung à l'est de Java conserve deux manuscrits anciens écrits en lettres anciennes balinaises et japonaises anciennes sur des feuilles de bois vieilles de plus de 300 ans. Lorsqu'ils ont été présentés à l'équipe de médias dans la salle de stockage du service des bibliothèques et des archives, les deux manuscrits anciens étaient encore en assez bon état. L'archiviste junior du service de bibliothèque et d'archives de la région de Tulungagung, Selan à Tulungagung, a déclaré mercredi que les manuscrits avaient été trouvés dans la région de Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Tulungagung, en 2019. Selon lui, les manuscrits anciens sont inclus dans la liste des archives statiques et stockés dans une armoire spéciale et ne doivent pas être détruits. Son parti mène actuellement un processus de numérisation pour faciliter l'accès au public aux manuscrits. Pendant ce temps, l'archiviste culturel de la Direction générale de la culture de la République d'Indonésie, Monis Pandu Hapsari, a déclaré que l'identification initiale des manuscrits anciens était écrite en lettres balinaises anciennes, en langue japonaise ancienne. La dernière nouvelle vient de Denpasar, Bali. Le service de l'agriculture de la ville de Denpasar, Bali, a lancé lundi l'innovation l'identité numérique unifiée ou GoChip à Denpasar qui était attachée à un animal à Denpasar lundi. Le chef du service agricole de la ville de Denpasar, Bali, Anak Agung Gede Bayu Brahmasta, lors du lancement d'innovation l'identité numérique unifiée GoChip à Denpasar, a déclaré lundi que l'installation de micropuces sur les animaux, notamment les chiens, peut empêcher et anticiper la propagation de la rage dans cette zone. Selon lui, l'installation de cette micropuce permet également à son parti de collecter plus facilement des données sur les animaux du village de Sanur Kaja afin qu'il puisse connaître les données des registres des animaux. ceci afin de garantir que les animaux ne soient pas exposés aux maladies ou d'autres virus. Il s'agit de garantir que les animaux de compagnie ne sont pas exposés des maladies et d'autres virus, créant ainsi une ville de Denpasar sûre, confortable, paisible, notamment le village de Sanur Kaja. Chers amis, c'était les nouvelles de l'Indonésie. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire aujourd'hui. Nous commençons avec les événements du 14 octobre 1921, la date de la naissance du général Hugeng. Hugeng Imam Santoso, ou mieux connu sous le nom de général Hugeng, est l'un des meilleurs fils de la nation indonésienne, non seulement respecté par la police de la République d'Indonésie, le cinquième chef de la police nationale de la République d'Indonésie est également apprécié du peuple indonésien. Tout au long de sa vie, cet homme né à Pekalongan le 14 octobre 1921 a été connu comme un policier honnête, ferme, simple et courageux. Afin de maintenir son intégrité en tant que chef de la police nationale, il est prêt à vivre simplement et à peine sous la direction « Les criminels n'osaient pas bouger ». Thank you. 14 octobre est la journée mondiale de la normalisation. L'histoire de la journée mondiale de la normalisation a été commencée par une réunion à Londres en 1946 pour discuter de la création d'une organisation axée sur le développement des normes mondiales. Citant par www.iso.org, 65 délégués sur 25 se sont réunis pour discuter de l'avenir de la normalisation internationale. La première réunion a eu lieu à Londres en 1946 et en 1947, l'Organisation internationale de normalisation, ou ISO, a été officiellement créée avec un total de 67 sections techniques. Chaque section est remplie d'experts qui se concentrent sur la discussion d'un sujet. Le 14 octobre 1973, rébellion étudiante de Thammasat en Thaïlande. 1100 étudiants de Thammasat en Thaïlande ont organisé une rébellion le 14 octobre 1973. Cette action a été menée pour protester et renverser le gouvernement militaire de Thanom Kittikachorn. Cet incident a fait 77 morts et 857 blessés par l'armée royale thaïlandaise. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Namun ku pikir
première chanson indonésienne, J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie. Cette fois, nous allons vous présenter l'Indonésie lance officiellement la bourse d'huile de palme brute. Le ministre du Commerce, M. Zulkifli Hasan, a inauguré la bourse indonésienne d'huile de palme brute à l'hôtel Mulia de Jakarta vendredi 13 octobre 2023. Le ministre Zulkifli Hasan espère que l'Indonésie deviendra une référence en matière de prix mondiaux de l'huile de palme. Cité par Antara, Zulkifli Hasan a déclaré que les entrepreneurs nationaux en huile de palme n'étaient plus obligés de se référer au prix fixé par les bourses de l'huile de palme de Rotterdam et de la Malaisie. Il espère qu'à l'avenir, la bourse indonésienne de l'huile de palme brute pourra devenir un baromètre des prix mondiaux de l'huile de palme brute, compte tenu de la position de l'Indonésie en tant que plus grand producteur de ce produit. Zulkifli a déclaré que les exportations indonésiennes de l'huile de palme brute en 2022 atteindront près de 47 millions de tonnes pour une valeur de 29,62 milliards de dollars américains. Zulkifli a déclaré que le gouvernement n'agissait qu'en tant que facilitateur de la bourse indonésienne de l'huile de palme. On espère que les entrepreneurs de l'huile de palme brute pourront participer à la bourse afin qu'ils puissent réaliser le rêve de l'Indonésie de devenir baromètre mondial de l'huile de palme brute. Pendant ce temps, le chef de l'agence de surveillance du commerce à terme des matières premières, M. Didit Nurdiatmoko, a déclaré que le décret du chef de cette agence publié le 9 octobre 2023, il a été déclaré que la bourse indonésienne des produits de base et des produits dérivés avait été nommé comme organisateur de la marché physique de l'huile de palme brute en bourse. De plus, le commerce de l'huile de palme brute via la bourse actuelle est volontaire ou non obligatoire. Elle n'est pas obligatoire, mais Didit estime que les acteurs économiques de l'huile de palme brute sont prêts à participer. Didit a déclaré que la bourse de CPO placera les vendeurs et les acheteurs au même niveau, afin qu'il ait un pouvoir de négociation. Au final, un prix de référence pour l'huile de palme brute sera établi. Didit estime que tous les acteurs économiques sont prêts à participer aux efforts visant à défendre la dignité de l'huile de palme brute dans l'archipel. Son parti encourage également les micro, petites et moyennes entreprises, les entrepreneurs en noix de coco, les entrepreneurs en huile de palme, à participer à la bourse indonésienne de l'huile de palme brute. Selon les données de l'Agence de surveillance de commerce à terme des matières premières, 18 acteurs économiques du CPO sont actuellement prêts à négocier via la bourse. Selon Didit, il s'agit d'un très bon début et montre qu'il existe un fort désir de la part des acteurs économiques de parvenir à un commerce de CPO plus équitable et plus transparent. Didit espère que la bourse de l'huile de palme brute sera pleinement opérationnelle à partir du 23 octobre 2023 et pourra commencer à former une découverte des prix. Le gouvernement espère qu'au premier trimestre 2024, il y aura une référence des prix. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Sebab dari sebuah kata cinta. Hingga saatnya tiba kita bertemu, tak hanya mengerti ku rasakan cinta. Ingin ku katakan meski masih ku ragu, karena selama ini ku acuhkan perasaanku lewat postinganmu. Terbuka hatiku, tersenyumku sendiri menatap wajahmu. Ku buka storymu,
chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter la sauce chili roussip de Bangka Belitung. Dans les traditions culinaires indonésiennes, la sauce chili est un plat indissociable des personnes vivant dans les zones urbaines aux personnes vivant dans des zones reculées. Ils aiment la sauce de chili. Chaque région a également sa propre particularité concernant ce plat. L'un des sambals originaire de la pointe orientale de l'île de Sumatra, précisément de Bangka Belitung, et le sambal roussip qui est fabriqué à partir d'anchois. Roussip est le résultat d'une fermentation. Le poisson nettoyé et la tête retirée est placé dans un tissu fin et essorez pour faire sortir les eaux. Ensuite, préparez un peu de riz en boule. Mettez ensuite les anchois, les boulettes de riz, la cassonade et le sel dans la bouteille et fermez hermétiquement. Le processus de conservation dure au minimum 7 jours. Une fois que le poisson fermenté dégage une odeur aigrie, c'est le signe que le poisson est prêt à être relâché. Le poisson sera ensuite mélangé avec des citrons verts, des échalotes et des piments. Le goût aigre de poisson et de l'orange racontera le goût distinctif des oignons et le piquant des piments. Le sambal roussi a un arôme fort à la dégustation. Les habitants de Bangka Belitung mangent généralement du sambal roussi avec du poisson transformé et des légumes comme de la laitue, concombre et aubergine. Accompagné de riz chaud, le sambal roussi est un compagnon culinaire incontournable lors de la visite des îles Bangka Belitung. Le roussi peut également être un souvenir de l'île de Bangka et peut être acheté dans les magasins vendant de la nourriture typique de Bangka Belitung. Roussi est généralement vendu entre 15 000 jusqu'à 25 000 rupiah par bouteille, selon la taille de la bouteille. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Jemur.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Chers amis de quatre coins du monde, merci d'être fidèles à notre antenne, la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter Bali devient la meilleure île d'Asie 2023. Bali, l'une des destinations touristiques les plus populaires au monde, continue d'attirer des touristes du monde entier. Cette île a tout ce qu'il faut pour devenir une destination de rêve, de belles places, une culture riche et une beauté naturelle. Un certain nombre de ces raisons ont amené Bali à rester la meilleure île d'Asie en 2023. Lors des récompenses décernées par Condé Nast Traveler dans le cadre des prix de choix des lecteurs, Bali a été nommée la meilleure île d'Asie pour cette année. L'île Bali est considérée comme une combinaison de sports de surf incroyables, de spiritualité et de luxe qui couchent ses visiteurs. Sur la liste Condé Nast Traveler, il a été indiqué que la sélection de la meilleure île d'Asie 2023 était assez compliquée parce que de nombreux nominés étaient jugés dignes de ce prix. L'Asie regorge d'attractions naturelles, notamment de belles îles. Bien sûr, il est difficile de choisir quelle île est la plus sensationnelle d'Asie et quelle est la meilleure destination pour 2023. Les scores d'évaluation diffèrent légèrement entre les endroits figurant sur la liste des 10 meilleures îles d'Asie en 2023. Même Bali et Koh Samui en Thaïlande ne sont séparés que 0,01 en valeur. Siargao, Philippines, score 87,37. Outre ces deux îles, les autres meilleures îles sont les îles Okinawa et Ryukyu au Japon, Phuket au Vietnam, au Sri Lanka, Palawan aux Philippines, Langkawi en Malaisie, Phuket en Thaïlande et Boracay aux Philippines. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Manisnya senyumanmu membekas dalam kalbu. Kini ku rasa ku telah jatuh cinta pada sosok malaikat yang tiada bersayap. Itu kamu di dalam hatiku. Kamu bidadari surgaku. Oh, maukah kamu menjadi pendamping dalam hidupku?
akan selalu temani hidupku ini, dan kan ku berikan semua taman surga. Ku telah jatuh cinta pada sosok malaikat yang tiada bersama.
Voilà la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Dans cette édition, nous vous présentons la chanson de Kroncong intitulée « Indonesia Adi Luhur » chantée par Mami Marsudi. La chanson créée par Suradi Santoso, elle a été sortie sur les plateformes numériques le 21 juillet 2023. Cette chanson Kroncong raconte de la beauté naturelle de l'Indonésie, de ses belles plages et de sa culture noble. Cette chanson invite les auditeurs à être reconnaissants pour le don extraordinaire de Dieu, afin qu'il puisse éveiller l'amour pour la terre-mère, l'Indonésie. Bon, chers auditeurs, voici Mami Marsudi, dont le titre est « Indonesia Adi Luhur ». Bonne écoute!
Voice of Indonesia.
Aku mengenal di kau tak cukup lama, separuh usiaku. Namun begitu banyak pelajaran yang aku terima. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih, tinggal kulukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Segala kebaikan takkan terhapus oleh kepahitan. Kulapangkan resah jiwa karena ku percaya kan berujung indah. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih, tinggal kulukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Terlahir bagai selembar kertas putih, tinggal kulukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni.
Voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.